France Inter. Le 18-20. Fabienne Saint-Esse.
Il y a quand même quelques bonnes nouvelles sur le front du tabac. En cette journée mondiale sans tabac, c'est une occasion aussi de le rappeler, fumer dans nos pays, en tout cas, est devenu assez ringard. Les chiffres, évidemment, sont trop hauts, bien sûr, et ce ne sont pas nos invités qui vont nous dire le contraire. Et vous faites d'ailleurs peut-être partie de ceux qui passent leur temps à essayer d'arrêter de fumer, croyez-moi, je serai la dernière à vous jeter la pierre. Mais le fait est que les chiffres baissent, et puisque nous sommes dans cette dynamique, il manque une chose importante, peut-être même étonnante, il manque le dépistage. Systématiquement, désormais, nous dépistons le cancer du sein. C'est pas agréable, mais c'est facile. Dépistage systématique aussi, c'est pas plus agréable. Du cancer du côlon ou celui du col de l'utérus. Mais pour le poumon, rien. Contrairement à certains de nos voisins, lointains ou pas, les Américains, les Sud-Coréens, les Hollandais, par exemple, ou les Anglais. Et pourtant, pris à temps, évidemment, le cancer du poumon a une meilleure chance de guérir. Plus une maladie est détectée tôt, mieux c'est. C'est une évidence, mais autant le rappeler, les pneumologues, les médecins radiologues poussent pour un dépistage systématique depuis longtemps. Des études sont en cours dans plusieurs hôpitaux. On va essayer de comprendre évidemment ce qu'on y gagne. Pourquoi il y a en France quelques réticences, on va appeler ça peut-être une frilosité. Y a-t-il des risques à un dépistage systématique? C'est le téléphone sonne ce soir et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Une fois n'est pas coutume, c'est avec une question internet qu'on commence sur franceinter.fr. Elle nous vient d'Isabelle qui est à Cormeil en Parisie, et qui dit « Je suis médecin pneumologue et je pense que faire un scanner tous les deux ans lorsqu'on est fumeur est primordial. Il n'y a même pas de discussion à avoir, nous dit-elle. Nous devons confier nos patients aux radiologues qui passent parfois à côté de débuts de cancer. » J'imagine que personne ne pourra contredire ce que dit notre amie Isabelle à Cormeil en Parisie. Je vais vous présenter les invités qui sont autour de la table. Marie-Pierre Revel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de radiologie, chef de service à l'hôpital Cochin à Paris. Vous êtes l'une des investigatrices principales de l'étude Cascade qui a été lancée par la PHP. Marion Adler est là également, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes médecin tabacologue à l'hôpital Antoine Bessières, c'est à Clamart. Et Sébastien Courreau est avec nous également depuis Lyon, bonsoir.
Bonsoir.
Pneumologue, chef de service au CHU de Lyon. Je vais vous poser la question l'un après l'autre. C'est l'une de vos consoeurs, Isabelle, puisqu'elle est pneumologue. Mais du coup, Marie-Pierre Revel, pourquoi est-ce qu'on j'ai l'impression qu'on le découvre, en fait. Comment se fait-il qu'on met tant de temps à dire des choses aussi basiques que « mais enfin, dépistons-nous »
Alors, la raison en est que on a eu quand même ces deux dernières années, enfin depuis 2020, la confirmation d'un bénéfice du dépistage par une étude belge et néerlandaise, l'étude Nelson, qui montrait qu'il y avait une réduction du risque de décès par cancer du poumon chez les personnes dépistées, et surtout qu'on avait géré le risque de faux positifs avec une stratégie qui est maintenant efficace. Alors, maintenant, ça c'est le monde de l'étude. Et dans le monde de l'étude, tout est un peu idéal. Tous les gens seront experts. Mmh. Et cette frilosité, c'est peut-être qu'il faut passer par des pilotes. Et c'est le but de l'étude Cascade que je coordonne, notamment pour la validité, la façon de lire les scanners. Dans les études, la plupart des études, c'est une double lecture par expert. Et ça, des experts radiologues comme moi en France, on n'en a pas assez. Mmh. Donc, on veut valider que des radiologues qu'on va former au dépistage et qui travaillent avec des solutions d'intelligence artificielle font aussi bien, et j'en suis convaincue, qu'une double lecture par expert, ce qui sera beaucoup plus transposable dans la vraie vie.
Parce que ce que je comprends, vous écoutant, vous avez parlé de faux positifs, donc c'est très récent en fait qu'on sait exactement faire un minimum d'erreurs, on va le dire comme
Alors voilà, la réticence initiale de la HAS, la Haute Autorité de Santé, dans son avis de 2016, un des arguments c'était il y a trop de faux positifs dans l'étude américaine. Et en fait, avec une stratégie qui est différente et plus moderne sur les études européennes où, en fait, on caractérise le temps de doublement des petites anomalies qu'on détecte avec des logiciels particuliers, ça a permis de réduire vraiment de façon très importante le risque de faux positifs qui était 24% dans l'étude américaine en 2011 et qui est à peine 2% dans l'étude Nelson en 2020. Donc ça explique une partie de la frilosité. Mais c'est réglé et maintenant les opposants continuent à dire « Ah oui, mais il y a un risque de surdiagnostic ».
Je ne sais pas ce que c'est, moi, le surdiagnostic, pour être tout à fait honnête. En fait.
Alors,
non, mais honnêtement...
Le surdiagnostic, c'est le risque de détecter et de traiter une maladie qui n'aurait pas retenti sur l'espérance de vie de la personne, soit parce qu'elle est très indolente, soit parce que la personne a d'autres causes, qu'on a des causes concurrentes du risque de décès, si vous voulez. Par exemple, dans le cancer de la prostate, on sait que si on fait des biopsies de prostate à tous les messieurs de 85 ans, on va trouver des cancers de prostate, mais ça va pas les tuer.
D'accord.
Et dans le poumon, il y avait une variété, ce qu'on savait pas avant, hein, parce qu'on a beaucoup appris grâce à nos 20 années maintenant d'expérience sur le dépistage, on sait que certaines formes sont indolentes, donc faut pas se jeter sur tout, mais justement quand on est bien formé par les spécialistes dont je fais partie, on évite ce risque et c'est une question qu'on doit considérer maintenant comme résolue.
Sébastien Courreau, est-ce que vous envoyez, vous, plus systématiquement, qu'est-ce que vous dites en fait, vous, le pneumologue, à vos patients ?
Alors, comme l'a dit Marie-Pierre, hein, nous, ça fait maintenant 10 ans qu'on travaille sur le dépistage en réalité. Et donc, ça fait 10 ans qu'on tourne autour un peu de cela et qu'on pratique déjà peu ou prou le dépistage de manière un peu individuelle, individualisée. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Marie-Pierre Revel, hein. On a vraiment la même vision des choses, avec une vision peut-être un peu plus globale, parce que au-delà des problématiques radiologiques, il y a d'autres problématiques dans le cancer du poumon, dans le dépistage du cancer du poumon, qui sont sur la définition du sujet à risque, la façon d'investiguer les positifs. Il y a beaucoup d'autres problématiques qui expliquent aussi la frilosité et qui ont expliqué le fait qu'on aille vraiment pas à pas pour cette décision progressive actuellement de vouloir faire des études pilotes. Donc pour répondre à votre question, nous on pratique le dépistage depuis très longtemps. En réalité, lorsqu'on a des personnes qui sont à risque régulièrement, eh bien on les envoie en fait au radiologue pour qu'on puisse avoir un scanner, qu'on puisse analyser ensuite ce scanner et voir quelle stratégie donner. Et on sait que ça a un effet individuel et collectif tout à fait positif, puisque on le sait depuis une dizaine d'années, puisqu'en fait les Américains avaient déjà démontré il y a 10 ans dans un essai clinique que le simple fait de proposer un dépistage régulier par scanner thoracique permettait d'augmenter l'espérance de vie de la cohorte qu'on étudie. C'est très fort, hein, comme impact. C'est que on augmente l'espérance de vie vraiment des personnes qu'on dépiste. Donc on a un faisceau d'arguments très très important désormais pour dire, et je crois qu'il y a plus de contestation possible aujourd'hui sur l'efficacité. Il y a évidemment des discussions sur l'optimisation des choses, et c'est ce que dit Marie-Pierre, hein, sur la, par exemple, sur les techniques d'interprétation, et je pense que c'est une des voies, effectivement, d'optimisation, c'est sur les techniques d'interprétation. On peut encore optimiser les choses, mais je crois qu'on est tous d'accord maintenant, scientifiquement, et d'ailleurs, la HAS l'a rappelé très récemment, on est tous d'accord pour dire que ça fonctionne.
Vous vouliez ajouter quelque chose, Marion Adler, allez-y.
Oui, c'est très important de dire qu'évidemment, il faut dépister, mais bien sûr, en parallèle, il faut absolument aider à l'arrêt, bien sûr.
On est d'accord.
Et parce qu'en parallèle, il y a aussi d'autres pathologies qui peuvent se développer. Donc, le cancer du poumon, c'est une chose. Les maladies cardiovasculaires, les autres cancers. Donc, évidemment, c'est essentiel, en parallèle de tous ces dépistages, et c'est très important, c'est la prévention, il faut absolument aider et être généreux pour aider à arrêter.
Et c'est intéressant ce que vous dites, pardon, je vais vous donner la parole dans une seconde, Marie-Pierre Revel, parce qu'il faudrait pas que les gens s'imaginent, je m'en fous, je continue à fumer, puis je fais des scanners pendant ce temps,
exactement.
Et puis je m'arrêterai quand je verrai que j'ai un cancer.
Mais en
gros, enfin, c'est surtout
temps,
ce qu'il faut, surtout la démarche à ne pas faire. Marie-Pierre Revel, qui avait levé la main très poliment, je vous écoute.
Oui, non, parce que je suis tout à fait d'accord avec Marion, le dépistage se conçoit dans une démarche d'aide au sevrage tabagique, et c'est absolument ce qu'on propose aux femmes qui participent à Cascade et qui l'acceptent vraiment dans une écrasante majorité. Le scanner n'est pas le fait que ça protège pas du risque, et il faut vraiment arriver à se soustraire à l'augmentation de ce risque en essayant d'avoir ce sevrage. On a été exposé au tabac, on est à risque, on fait le dépistage, mais on arrête de s'exposer à ce risque. Et le scanner permet certes de dépister des petites lésions débutantes, mais aussi de faire le bilan sur les artères coronaires. Hein, vous parliez du risque cardiovasculaire, de détecter l'emphysème, et puis chez les femmes de Cascade aussi détecter l'ostéoporose. Je voudrais juste dire que il faut quand même, on a quand même des choses à régler, il faut, c'est très important, c'est une chose de faire du dépistage individuel, ponctuel, prescrit par le pneumologue, c'est une autre chose de passer un dépistage organisé sur un gros effectif de population, parce que il faut que les acteurs soient formés. Les radiologues qui réalisent le dépistage du cancer du sein par mammographie ont une formation, et ça ne viendrait à l'idée de personne de commencer à faire de la mammographie comme ça sans être formé. Il faut faire la même chose pour le dépistage du cancer du poumon. Ça peut pas reposer sur une trentaine d'experts français. Donc, c'est ça notre action, hein, avec la Société française de radiologie. Et moi, j'ai conduit ça au niveau européen, de définir un programme de certification au dépistage pour que ce dépistage soit fait avec qualité. Et c'est vraiment l'expertise des radiologues que de savoir reconnaître ce qui est un cancer de ce qui ne l'est pas, de faire un scanner réellement en faible dose avec les techniques les plus modernes, parce que c'est un dépistage qu'on va être amené à répéter. Hein, c'est pas, on fait ça trois fois et terminé. Tous les deux ans, il faudra.
J'allais vous poser la question. Le cancer du sein, c'est tous les deux ans ou tous les ans, ça dépend si on est à risque. Ça commence à 50 ans, ça peut commencer beaucoup plus tôt. Est-ce que pour le cancer du poumon, c'est pareil? On se dit que ça commence à 50 ans. Est-ce que quand on est à risque, ça commence encore une fois bien plus tôt, à 30 ans, à 35 ans, à 40 ans? Comment ça s'envisage tout ça?
Alors, le dépistage, on est contraint, entre guillemets, de le proposer à partir de 50 ans parce que ça correspond aux caractéristiques des études qui ont démontré le bénéfice. Moi, un de mes projets, c'est vraiment, en particulier chez les femmes qui, à tabagisme égal, sont plus à risque de développer un cancer, d'évaluer des âges plus précoces. Ma cousine, que j'adore, a développé son cancer stade 4 à 49 ans. Mais elle fumait énormément de tabac très toxique, puisque c'était du tabac à rouler. Et ça, notre collègue tabacologue va en dire un mot.
Oui, alors le tabac à rouler, une cigarette à rouler, c'est équivalent à deux cigarettes normales au niveau de la toxicité. Donc il faut pas se leurrer, le tabac à rouler est deux fois plus toxique, voire plus. Donc clairement, il y a plus de dépendance, il y a plus de toxicité, vous avez tout à fait raison. Et donc c'est important, les traitements vont être deux fois plus importants pour permettre à la personne d'arrêter facilement en douceur.
Ce que je trouve intéressant, c'est l'étude Cascade, en l'occurrence là, elle est sur les femmes. Et ce qu'on voit, Marion Adler, dans les statistiques, c'est qu'en effet, ce sont les femmes qui sont beaucoup plus malades que les hommes aujourd'hui. Est-ce qu'on a plus de mal à les faire arrêter? Est-ce qu'elles ont commencé plus tard par rapport aux hommes, donc elles continuent plus tard? C'est quoi le phénomène, en fait?
Alors, clairement, c'est une maladie chronique. Hein. Ouais. Le tabagisme est une maladie chronique, c'est reconnu comme ça maintenant, donc ça veut dire que c'est pas leur faute. Elles sont victimes de cette dépendance et il faut les aider à la bonne hauteur. Ce qui est clair, c'est qu'il peut y avoir des spécificités féminines qui sont, par exemple, à un certain moment, les hormones qui ne protègent plus ou protège moins bien au niveau cardiovasculaire et du coup des patientes qui font des infarctus ou qui font des cancers du poumon en effet avant les hommes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est d'abord les facteurs bien sûr personnels, mais surtout il y a aussi une tendance parfois chez les femmes à être plus rapidement déprimées lors de l'arrêt du tabac, et c'est très important. Les doses suffisantes de nicotine peuvent aider justement à ne pas déprimer quand on arrête de fumer, et ça c'est souvent sous-estimé, c'est-à-dire que l'arrêt du tabac provoque un inconfort qui est le syndrome de manque. On peut être énervé, stressé, angoissé, déprimé, on a des fringales. Et tout ça, c'est bien calmé si on a un traitement adapté, un apport de nicotine, quel qu'il soit, de la manière plaisante pour que les gens soient agréablement accompagnés pour l'arrêt du tabac. Alors ça peut être les substituts nicotiniques. Malheureusement, les traitements, pour l'instant, on n'en a pas beaucoup à disposition, mais ça, j'espère revenir. Puis ça peut être la vape, la cigarette électronique, qui peut être une aide efficace chez certaines personnes et surtout choisie par certaines personnes pour être une aide efficace.
Pardon, quand vous dites des traitements, on n'en a plus ou ça va peut-être revenir, ça veut dire quoi?
Malheureusement, le Champix,
on est d'accord avec ça, ça n'existe plus.
Non fabriqué. J'espère que ça va revenir, mais on ne sait pas. C'est une histoire de fabrication, de laboratoire, etc. Donc malheureusement, ça faisait partie des traitements. On n'en avait pas énormément. On avait les substituts nicotiniques et quelques traitements médicamenteux qui sont le bupropion et le Champix. Ce sont chez Champix, c'était totalement remboursé, comme les substituts nicotiniques, faut le dire. Parce que peu de gens savent encore que les substituts sont complètement remboursés grâce à Agnès Buzyn qui nous a quand même fait ça et qui a complètement considéré que c'était une maladie chronique. Donc malheureusement, ce traitement qui était aussi remboursé et qui était efficace, on l'a plus, j'espère qu'on l'aura à nouveau, parce que certaines personnes font des allergies au patch et malgré les anti-allergiques, parfois ont quand même besoin d'être aidées autrement, et voilà.
Marie-Pierre Revel, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, en ce qui concerne la dépendance au tabac, je suis pas tabacologue spécialiste, mais ancienne fumeuse, j'avais l'impression que ça serait absolument impossible. Et c'est vrai, quand on est très dépendant, quand c'est tellement incrusté dans sa vie, on a l'impression qu'oh là là, on va jamais. Tout ça, c'est faux. Il faut être pris en charge et ça marche. Et il y a d'excellents collègues tabacologues. Il y a toute l'aide de Tabac Info Service. Il y a le RESPAD, le réseau de prévention des addictions. Toutes les femmes qui nous contactent pour Cascade, on leur propose cette aide on leur propose l'inclusion dans l'étude pour avoir le dépistage, mais tout de suite l'aide au sevrage pour celles qui sont encore fumeuses. Et c'est ça qui est le duo gagnant, vraiment, le sevrage et le dépistage, et pas l'un sans l'autre, parce qu'il faut qu'on relègue le cancer du poumon aux oubliettes. C'est une maladie évitable, une maladie qui était exceptionnelle jusqu'au début du XXe siècle, et moi j'en ai marre de voir de semaine en semaine des gens de plus en plus jeunes, de plus en plus de femmes arriver avec des cancers à des stades avancés.
33 000 morts par an, hein, faut le redire, ce chiffre-là, c'est quand même un chiffre très important. Sébastien Courreau, une question pour vous sur franceinter.fr. Question pratique vraiment de Françoise qui nous dit, mais combien de temps après l'arrêt du tabac faudrait-il dépister ?
Alors ça, c'est une très très bonne question. On dépiste effectivement les fumeurs, hein, on en a parlé à l'instant, et je crois que je rejoins naturellement ce que disent Marion et Marie-Pierre sur le fait que à ce moment-là, il est extrêmement important de leur proposer une aide au sevrage, mais on dépiste aussi les ex-fumeurs. Et pour répondre précisément à la question de votre auditrice, on va dépister jusqu'à 15 ans après l'arrêt du tabac. Voilà, on sait que le risque persiste longtemps après l'arrêt du tabac, ensuite il réduit, et donc les études nous ont montré que au-delà de 15 ans, il n'était pas forcément nécessaire de, pour le moment, dans l'état actuel des connaissances, il n'était pas forcément nécessaire de dépister. Donc vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est, faut que vos auditeurs retiennent, j'ai plus de 50 ans, j'ai fumé beaucoup et ou longtemps, on dit plus de 25 ans, c'est un bon marqueur. Mmh. Quand on a fumé plus de 25 ans, il faut se poser la question, j'ai 50 ans, j'ai fumé plus de 25 ans, j'ai arrêté mais il y a moins de 15 ans, ou j'ai envie d'arrêter, ou même j'ai pas envie d'arrêter, c'est là qu'il faut que je me pose la question de savoir si un dépistage du cancer du poumon est intéressant, est utile pour moi.
Allez-y Marion, puis on va retourner au standard.
Je serais très incisive en fait en disant exactement, il a tout à fait raison Sébastien, je dirais maintenant il faudrait être très moderne, comme dit le professeur Dobzenberg, il faudrait proposer un traitement, pas seulement le proposer, mais dire aux patients qu'il leur faut un traitement d'aide à l'arrêt du tabac, et beaucoup s'apercevraient que finalement ça marche très bien quand on donne un bon traitement, c'est-à-dire l'association entre les patchs et les formes orales et la vape si nécessaire qui peut leur permettre d'avoir une dose suffisante de nicotine, finalement on y arrive. Quand quelqu'un a du cholestérol, on lui demande pas est-ce que vous voulez un traitement, et quand il a fait un infarctus, vous voulez un traitement contre le cholestérol, on lui dit, il va falloir ça pour que votre cœur soit aidé. Donc là, je pense qu'il faudrait presque l'imposer, et puis aider les gens à être accompagnés.
Bonsoir Bernard.
Bonsoir.
On vous écoute Bernard.
Bonsoir, voilà, j'ai 77 ans, et j'ai arrêté de fumer en 1984 à la suite du décès de mon père. Voilà, et moi je vais vous raconter la mésaventure qui m'est arrivée. Il y a 2 ans, mon médecin traitant m'a envoyé chez la rhumatologue, à la suite, parce que j'étais très fatigué, et ils avaient diagnostiqué une PPR. Et donc...
DPR, pardon ?
PPR, pseudopolyarthrite rhizomélique.
D'accord.
Et donc, j'ai été traité pour ça pendant 1 an avec une corticothérapie. Et l'année dernière, au mois de juillet 2021... Donc, je suis retourné voir l'homologue qui m'a dit que la PPR était terminée. Et je lui ai dit que j'étais toujours très fatigué, j'avais des douleurs dans le dos, etc. Et que j'avais perdu du poids. Elle m'a dit donc, elle m'a envoyé passer un scanner. Et ce scanner, un an avant, j'avais passé déjà un scanner où il n'y avait rien. Et là, elle m'a envoyé passer un scanner et au CHU à Bordeaux. Et là, on me trouve une masse hilaire de 4 cm sur 2 cm. Et donc, la rhumatologue m'envoie ensuite chez la pneumologue. J'ai une pneumologue qui me dit, oh, ça c'est salement cancéreux. Ça a été confirmé que j'avais bien une masse hilaire à notre scanner. Et donc, j'étais allé chez la rhumatologue au départ, je devais être opéré du genou aussi. Et donc, je suis arrivé chez la rhumatologue pour une opération du genou, et je suis revenu quatre ou cinq scanners plus tard, et 3 fibroscopies plus tard, non contributives, avec un cancer du poumon. Mm-hmm. Pneumologue m'a dit c'est certainement cancéreux. J'ai consulté ensuite un radiologue qui m'a dit, c'est pas sûr que ce soit cancéreux, c'est peut-être une grosse veine. Mmh. Là-dessus, on m'a envoyé voir ensuite un chirurgien qui m'a dit c'est certainement cancéreux. Il m'a dit c'est même cancer à 90-95%. Mmh. Je suis allé voir un autre scanner. Le radiologue m'a dit pour moi, c'est certainement un ganglion qui s'est enflammé.
Que vous êtes en train de nous expliquer, pardon Bernard, hein, mais d'un scanner à l'autre, c'est jusqu'à quel point on vous a promené, en fait, sans capacité de dire exactement ce que vous aviez.
Je termine.
Ben, vite, s'il vous plaît.
Je vais très vite, je termine. Et donc, l'opération, on devait m'opérer le 18 janvier. Or, la semaine précédente, le 18 janvier, j'ai subi 4 examens, donc les 4 examens classiques. Et là, on s'est aperçu que la tumeur avait diminué.
OK.
Donc, j'ai gagné 3 mois. Et le 14 avril dernier, j'ai passé un autre scanner et la tumeur avait disparu.
Allons bon.
Voilà. Eh bien, c'est bien, mais vous comprenez, j'ai galéré pendant 8 mois. Je vous dis pas dans quel état j'étais.
Bah, j'imagine, voilà. J'imagine que on comprend dans quel état vous étiez. Vous avez laissé pantoise de nos invités, Marie-Pierre Revel.
Oui, là, je pense que il y a des dossiers qui sont difficiles, ouais. D'où la nécessité d'avoir appel à des équipes qui sont formées, qui sont expertes et que les dossiers soient discutés de façon pluridisciplinaire. C'est vrai que la pseudo-polyarthrite rhizomélique peut être ce qu'on appelle un syndrome paranéoplasique, c'est-à-dire la manifestation d'un cancer qui est ailleurs, hein, simplement parce que ce cancer va sécréter certaines substances qui provoquent cela, donc ça doit inciter à une grande prudence. Je n'ai pas compris dans l'histoire de cet auditeur si à un moment donné il y avait une confirmation par une analyse tissulaire qu'il avait réellement une tumeur ou si c'était un faux diagnostic. Mmh. Mais voilà, il y a des cas simples, des cas plus difficiles. Et en tout cas, c'était ce que raconte cet auditeur n'est pas quelque chose qui cadre avec le dépistage. Mmh. Il avait des symptômes, il avait une altération de l'état général. Le dépistage, c'est d'aller détecter précocement une tumeur chez des patients qui sont asymptomatiques et c'est bien pour ça qu'il faut aller les chercher à ce stade-là parce que le cancer du poumon débutant ne donne pas de symptômes, il ne donne des symptômes qu'à un stade où malheureusement il est avancé. Et c'est tout l'intérêt du dépistage, d'être en amont pour permettre de traiter.
Madame la tabacologue Marion Adler, j'ai arrêté de fumer mais je suis dépendant des pastilles, est-ce que c'est grave ?
Absolument pas grave. Déjà, il faut rassurer. Les pastilles, c'est que de la nicotine. La nicotine n'est pas toxique. Ce qui est toxique, c'est la fumée. Il faut vraiment le dire. C'est important. C'est la fumée qui est toxique. Donc, le tabac, évidemment. Les nouvelles formes de tabac aussi, hein, les IQOS, HEETS, etc., qui sont ce que dit le tabac à chauffer, comme dit l'industrie du tabac. En fait, c'est pas du tabac à chauffer, c'est du tabac grillé, qui aussi donne les mêmes substances cancérigènes à moindre dose, mais ça aboutit aux mêmes pathologies. Donc, il faut pas se leurrer. Ça n'a rien à voir avec la vape ou cigarette électronique, qui elle, permet de la vaporisation de nicotine.
Voilà, c'est pas de la fumée au sens propre du terme. Si vous dites que la fumée provoque le cancer, c'est pas
exactement
la même, si je puis dire.
Exactement,
en fait.
C'est de la vaporisation de nicotine chez la vape. Ce qui est très important aussi, les substituts nicotiniques, c'est que de la nicotine. La nicotine n'est ni cancérigène, ni mauvaise pour les poumons, ni mauvaise pour le cardiovasculaire. Et c'est justement pour ça que c'est très important de permettre aux gens d'être remis au centre du soin. Le patient, c'est au centre du soin. Pour être aidé, il faut qu'il ait les bons conseils. En effet, il faut aller dans des magasins spécialisés de vape et non pas n'importe où sur Internet ou chez les buralistes. Il faut aller avec des gens qui conseillent bien et puis des tabacologues. Et si on continue à être vapofumeur, on continue le risque du tabac. Donc là, à ce moment-là, il faut associer les substituts nicotiniques pour être avec zéro cigarette. C'est très important.
Eugénie nous dit, je suis médecin, je conseille à mes patients pour leur sevrage, la cigarette électronique sans nicotine, qu'en pensez-vous ?
Alors, je pense que c'est une bêtise sans nicotine. Je pense que c'est très bien de conseiller la vape qui peut plaire à des patients. Il faut associer les substituts, mais il faut aussi mettre de la nicotine. Et comment ? Le principal manque, ce qui manque aux patients dans la cigarette électronique, c'est justement la nicotine. Donc, c'est essentiel de mettre de la nicotine dans l'aide et dans l'accompagnement. Donc, les vapes, c'est avec nicotine. Au fur et à mesure, on se débarrasse du geste de la vape en la mettant un petit peu de côté. Et après, on baisse la dose de nicotine tout doucement. Il n'y a pas d'urgence. Encore une fois, la nicotine, c'est pas ça qui est toxique. Je les donne aux femmes enceintes. Hein.
Ouais.
La nicotine, ça doit aider les femmes enceintes qui ont une élimination de la nicotine qui est plus importante due probablement à la grossesse et au volume hydrique. Donc, il faut souvent leur donner des fortes doses de nicotine pour les aider vraiment à leur bon niveau. Et la vape peut être une aide à beaucoup de femmes enceintes pour sortir du tabagisme. Et dans ces cas-là, il ne faut pas leur déconseiller. Il faut même leur conseiller et d'associer les substituts pour être à zéro cigarette complètement.
Xavier, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute, Xavier.
Écoutez, moi, la question que je pose, c'est bien le dépistage. Je suis pour la science, hein, il n'y a pas de souci. Le seul problème, c'est que comment on est pris en charge après ? Moi, j'ai l'exemple de mon beau-frère. Il a été maltraité, enfin, au sens erreur de traitement de rayon sur un cancer de la prostate. Maintenant, il est dans un chariot, il est complètement détruit. Je pense que le problème, c'est bien de vouloir nous prolonger, mais nous prolonger dans quelles conditions ? Voilà, c'est tout, nous aider, mais on dit qu'on a un problème, on le soigne, Mais on le soigne comment et dans quel état on sort?
Merci beaucoup, Xavier. Dépister et prolonger sont deux choses bien, bien, bien différentes. Marie-Pierre Revel, on est d'accord avec ça?
Oui, oui, tout à fait. Là, l'idée du dépistage, c'est qu'on va détecter des tumeurs de petite taille qui vont être accessibles à de la chirurgie. Cette chirurgie, maintenant, peut être faite de façon mini-invasive, un petit peu, si vous voulez, comme une célioscopie de la cage thoracique. Et pour avoir bénéficié de cette technique, je peux vous dire que 2 mois après, je reprenais les entraînements de natation 2 fois par semaine. Et que c'est ma qualité de vie est excellente. Donc non, là tout l'intérêt du dépistage, c'est de vous protéger et d'avoir une chirurgie limitée qui permet de reprendre sa vie tout à fait normale et sans traitement complémentaire, parce que le dépistage permet d'identifier des stades 1, c'est-à-dire des stades tout à fait débutants.
Ce qui, habituellement, vous allez me contredire si je me trompe, Sébastien Courault, le cancer du poumon, le dépiste, on est quasiment déjà au stade 4, en fait. Alors, on va pas dire que c'est déjà trop tard pour les gens qui nous écoutent, mais c'est déjà très loin, en fait.
Oui, vous avez tout à fait raison. Et ça, c'est un élément qui est vraiment très, très important. C'est que, globalement, aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, on va diagnostiquer spontanément les cancers du poumon à un stade avancé dans plus de 2/3 des cas. C'est-à-dire que dans plus de 2/3 des cas, le patient se présente avec déjà des symptômes. Et lorsqu'il y a des symptômes, il n'y a pas de symptômes précoces du cancer du poumon, ça n'existe pas, les symptômes sont tous tardifs. Et lorsqu'il y a des symptômes, bien souvent la maladie est avancée. Et cette maladie avancée, elle est plus compliquée à traiter. C'est ce que disait Marie-Pierre à l'instant. On a beaucoup plus de difficultés à faire des traitements qu'on appelle minimalement invasifs, à faire des traitements plus simple, hein, je rejoins ce que disait votre auditeur Xavier juste avant, c'est-à-dire qu'effectivement, il a parfaitement raison, il faut traiter, mais traiter dans de bonnes conditions, avec une bonne qualité de vie, on est tous absolument d'accord là-dessus, et bien c'est justement ce qu'on va pouvoir faire, ce qu'on va pouvoir faire sur des stades plus précoces. Donc, 2/3 aujourd'hui des cancers du poumon diagnostiqués à un stade avancé, moins facilement traitable. Je dis bien moins facilement parce qu'il y a eu énormément de progrès. Je pense que vous avez entendu parler de l'immunothérapie. Vous savez aussi que dès demain commence le congrès mondial du cancer du poumon à Chicago. On va beaucoup en parler aussi. Vous allez voir que c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important et qui fait vraiment évoluer les choses. Et aujourd'hui, on a des guérisons, y compris à des stades métastatiques. Chez des gens qui ont des métastases du cancer du poumon, on peut arriver à des guérisons. C'était exceptionnel passé un temps. C'est devenu non pas fréquent, mais ça arrive régulièrement désormais. Le dépistage, lui, va permettre très simplement d'inverser la tendance. C'est-à-dire qu'on espère arriver à 2/3 de diagnostics de stades précoces. Des stades 1, effectivement, ceux qui n'ont pas besoin de traitement complémentaire, probablement aussi des stades 2, qui nécessitent un traitement complémentaire, mais qui est bien moins lourd, et sur lesquels, si vous voulez, autant on est à 20% de survie à 5 ans sur les stades avancés, autant pour les cancers du poumon de stade précoce, on est à 90% de survie à 10 ans. Donc vous voyez que c'est vraiment un changement complet en termes de paradigme, mais c'est ça qu'on cherche à faire. C'est inverser la tendance, c'est passer à 2/3 de diagnostic de cancer dépisté, limité, accessible à un traitement efficace et définitif.
On a Nathalie qui nous dit ceci sur franceinter.fr. Dépister les fumeurs, c'est bien. Il serait peut-être aussi utile de rappeler qu'on peut avoir un cancer du poumon en étant non-fumeur, avec tous les autres facteurs à risque, la pollution, le stress, le tabagisme passif, etc. Un dépistage plus étendu serait-il également utile?
Alors, je crois que voilà, il faut pas se tromper. Effectivement, malheureusement, certaines personnes développent un cancer du poumon, ceux qui ont des altérations génétiques qu'on appelle les mutations EGFR sans avoir fumé, mais c'est vraiment à peine 10%, c'est peut-être trop, mais voilà, le gros ennemi, c'est quand même le tabac, c'est le facteur de risque principal. Il faut dénormaliser le fait de fumer, il faut complètement changer le regard sur le tabagisme et faire que cette maladie, on la relègue aux oubliettes, là où elle devrait être. Et pour ça, changer complètement ses regards, pas nier qu'il y a une dépendance très forte, écrire « fumez-tu » sur les paquets de tabac, ça tue, mais pas tout de suite, mais ça fait perdre des années d'espérance de vie. Et il faut vraiment que les jeunes entendent ça. Quand on commence à fumer, on n'est pas libre du moment où on arrête. Donc, il faut vraiment, et ça, c'est vraiment l'expertise de notre collègue tabacologue, d'insister sur ce point.
C'est la liberté qui est bafouée clairement quand on commence à devoir prendre une substance qui en plus vous abîme la santé et au détriment de son portefeuille en plus, donc la santé et du portefeuille. C'est vrai que les jeunes, c'est très important, comme vous dites, de dénormaliser. C'est ringard de fumer. Dans certains pays comme l'Australie ou les États-Unis, on est arrivé à montrer ça et donc c'est clairement beaucoup plus rare les fumeurs chez les jeunes. Il y a aussi une chose importante, c'était à Marie-Lalongue, ils ont fait une étude très intéressante qui rejoint ce que disait aussi Sébastien. Ils ont notamment dépister des cancers du poumon chez les gens qui avaient un problème cardiovasculaire. Donc on traitait le problème cardiovasculaire, on leur faisait ce dépistage, et c'était extrêmement intéressant de voir que, évidemment, on les voyait aussi pour l'arrêt du tabac, et bien on a dépisté aussi au stade très précoce des cancers du poumon. Donc c'est important dans d'autres pathologies liées au tabac.
Et puisque c'est vous qui prenez la parole, Marion, il y a une question qui est faite pour vous, c'est celle d'Éric. Question rapide, réponse rapide. Bonsoir Éric.
Bonsoir, bonsoir.
On vous écoute, allez-y.
Alors voilà, moi j'ai 62 ans, j'ai fumé jusqu'à l'âge de 50 ans un paquet à peu près de cigarettes, et depuis j'ai réussi à m'arrêter, mais en fumant tous les soirs une à deux cigarettes. Alors ma question c'est à savoir, est-ce que j'ai autant de risques ou j'ai réussi à réduire mes risques de cancer ?
Merci Éric. Marion Adler.
Une réponse très courte, il y a une étude suédoise qui a montré que quand on fume un paquet par jour, on multiplie par 5 le risque cardiovasculaire. Quand on fume une à 3 cigarettes par jour, on multiplie par 3. Donc il n'y a pas de petit tabagisme non dangereux. Donc je vous conseille de remplacer vos cigarettes par un apport de nicotine autre, tout ce que vous aimerez, des gommes, des pastilles, la vape. Mais surtout, surtout éliminer le tabac, parce que ça, c'est toujours un risque, et en particulier cardiovasculaire. Donc ça serait dommage, comme disait aussi Marie-Pierre, la qualité de vie. C'est ça, si vous faites un accident vasculaire cérébral ou un infarctus, c'est la qualité de vie qui en pâtit.
Sébastien Cour, vous vouliez réagir tout à l'heure, je vous ai entendu de loin dans mon casque parce que vous êtes à Lyon, à l'auditeur précédent sur le tabagisme passif et les cancers du poumon qui peuvent venir d'ailleurs que la cigarette.
Oui, je voulais nuancer un petit peu. Alors évidemment, je ne vais pas contredire ce que dit Marion sur la dangerosité du tabac. C'est pas un pneumologue que vous allez dire ça, mais il faut nuancer quand même. Il y a également, et je pense que c'est important de l'entendre, des cancers du poumon des non-fumeurs. Et ça, c'est un élément qui est important. Il y en a un nombre substantiel, c'est jusqu'à 30% des nouveaux diagnostics chez les femmes. Donc c'est quand même une femme sur trois diagnostiquée. C'est pas anodin. C'est une vraie question que pose votre auditrice et elle a raison de la poser. C'est-à-dire qu'en fait, elle, ce qu'elle dit, voilà, ça existe chez les personnes qui n'ont jamais fumé. Et si on ne s'intéresse que à des gens qui ont fumé, est-ce qu'on va pas me louper? Et ça, c'est quelque chose que j'entends régulièrement à la consultation. Lorsque je reçois, c'est souvent des femmes, parce que c'est plus fréquent chez les femmes, c'est des femmes qui me disent, mais moi, je serais passé au travers. Mmh. Alors, en l'état actuel des choses, en France, il n'est pas indiqué de proposer un dépistage chez les stricts non-fumeurs. On peut moduler un peu les choses lorsqu'on a bien l'habitude, lorsque des gens ont des facteurs de risque extrêmement importants, on peut les moduler. Vous savez comme moi que à côté du tabagisme, il y a d'autres facteurs de risque que le cancer du poumon. Je pense aux plus connus, l'exposition à l'amiante, par exemple, l'exposition au radon, qui est un gaz environnemental, l'exposition à la pollution atmosphérique. Et donc, lorsque l'on est sur des gens qui ont des tableaux extrêmement à risque, on peut réfléchir à cela. Ce d'autant que nos collègues coréens et nos collègues japonais se sont, intéressés au dépistage des personnes qui n'avaient jamais fumé. Alors attention, on ne peut pas transposer ce qui se passe en Corée, au Japon, en France. C'est pas l'idée. Mais l'idée était de montrer effectivement que en dépistant ces personnes-là, ça restait quand même intéressant. Donc je nuance simplement en disant non, il ne faut pas le faire aujourd'hui. Mais oui, il faut accueillir, je dirais, cette demande, l'écouter, essayer d'y répondre, je dirais, très individuellement. Aujourd'hui, collectivement, c'est clairement pas l'idée. Et je crois que ça, c'est vraiment un élément qui est très important. Et je veux que vos auditeurs le retiennent. C'est vraiment, il faut absolument respecter les recommandations françaises qui ont été écrites il y a tout juste un an et qui encadrent, je dirais, vraiment la pratique du dépistage.
Ça va, c'est de loin le facteur de risque principal.
Voilà. J'allais dire une nuance de la nuance de défi dans le studio, là, face à vous, Sébastien.
Il faut pas se tromper d'ennemi. Il y a un ennemi numéro un. C'est le tabac. Et celui-là, il faut, l'industrie du tabac a longtemps masqué cette dépendance forte, a longtemps raconté beaucoup d'âneries et fait un marketing, la cigarette légère, mais c'est une honte prononcer ce terme. La cigarette légère, ça a juste modifié l'histologie des cancers du poumon. Donc, on a un ennemi numéro un à abattre, il faut s'y atteler. Et je pense que, je voulais juste, Fabienne, souligner que j'étais vraiment très heureuse de la forte participation des femmes à l'étude Cascade. On m'avait dit, tu vas pas y arriver, tu vas avoir du mal à recruter. En un mois, on a eu 1200 femmes qui nous ont contactées. Et d'ailleurs, j'en profite pour m'excuser auprès d'elles pour le fait que toutes n'ont pas encore été rappelées, mais toutes les femmes qui ont contacté l'équipe seront rappelées. Et pour l'instant, tous les dépistages sont négatifs, donc personne n'a à se faire de soucis.
Et alors, j'ai ce mail de Thierry qui est intéressant et qui dit, j'ai arrêté de fumer dans le cadre d'un protocole à l'hôpital de Créteil pour mettre en place une méthodologie pour détecter le cancer du poumon avec scanner et prise de sang. Du coup, j'ai arrêté d'un seul coup pour le protocole, du jour au lendemain. Bravo. Et c'était il y a 6 ans. C'est aussi une forme de motivation que d'entrer dans ce genre de protocole. Et pourquoi pas, Julien est avec nous. Bonsoir, Julien.
Bonsoir.
Il nous reste deux minutes, Julien, mais je vous fais confiance.
Oui, je vais essayer de faire rapidement. Non, c'était simplement pour témoigner, voilà. On va dire que plus ou moins par hasard, j'ai été dépisté d'un emphysème. Je dis par hasard parce que je suis allé voir tout simplement mon médecin généraliste parce que j'avais des inquiétudes et que j'avais perdu moi-même ma mère d'un cancer du poumon alors qu'elle n'avait pas encore 40 ans. Je regrette simplement, alors que j'ai fait plusieurs démarches auprès de médecins pour arrêter de fumer, de pas avoir trouvé un accompagnement adéquat jusqu'à maintenant. Et là, à l'heure actuelle, c'est plutôt la peur des conséquences de l'emphysème sur le long terme qui me fait vraiment avoir ces démarches-là, alors que ça a déjà des conséquences assez importantes sur ma vie à l'heure actuelle. Donc voilà, je déplore un petit peu le manque de prévention et d'éducation à la santé sur ces domaines-là, d'autant qu'on sait, il me semble en tout cas, que plus ça commence tôt, plus l'impact est important.
Merci pour votre témoignage, Julien. Marion Adler, c'est marrant ce qu'il dit, Julien, parce que je trouve que la peur est souvent la conseillère de l'arrêt du tabac, en fait.
Bien sûr, mais Julien...
Et ça fait de la peine, hein, quand on y songe, mais c'est vrai que c'est souvent ça.
Mais il a raison, Julien, il faut absolument... Déjà, il a sa mère qui est morte d'un cancer du poumon, ça veut dire qu'il avait un facteur de risque, et le facteur de risque, ça montre qu'il fallait absolument... Même si on n'a pas de facteur de risque, de toutes les façons, le tabac, c'est toxique, et de toutes les façons, ça risque d'aboutir mal, au final. Donc, de toutes les façons, que vous ayez ou pas un signe, que vous ayez ou pas des facteurs de risque, c'est important d'être aidé, d'être accompagné à la hauteur de ce dont vous avez besoin. Et surtout, voyez quelqu'un, si vous avez besoin, qui vous donne la dose qu'il faut pour que vous soyez en train d'arrêter sans souffrir. On peut très bien arrêter si on a la bonne dose de nicotine, sans la souffrance du manque. Et il faut le savoir, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable, avec que le plaisir, parce qu'on retrouve le souffle très rapidement. En 48 heures, on a une oxygénation qui est normale. On retrouve aussi un bon teint, etc. Donc c'est très important d'être aidé.
Allez-y,
je pense qu'on peut donner le contact à tous les éditeurs de Tabac Info Service. Il y a plein d'aides qui sont proposées. Et puis, de consulter auprès d'un tabacologue. Ce sont d'excellents spécialistes et il ne faut pas voir le sevrage comme la mission impossible. Mais par contre, il faut être accompagné parce que fumer, c'est avoir une maladie qui s'appelle le tabagisme. Et quand on a une maladie, il faut être pris en charge.
Et dites-moi, juste en 8 secondes, parce que vraiment on a fini, si les gens qui nous écoutent disent « Ah ben moi, je ne suis pas dans un protocole, mais du coup, j'irais bien me faire un scanner, parce qu'après tout, pourquoi pas ?» Est-ce qu'on peut y aller facilement? Au fond, on demande une ordonnance à son médecin et c'est facile ou est-ce que c'est compliqué d'aller faire un scanner?
Moi, je pense qu'il faut, il faut avoir affaire à des gens qui connaissent cette technique du dépistage, qui doit se faire en faible dose, qui doit ne pas décrire des faux positifs. Et je sais que, il faut être dans un réseau de médecins spécialistes et on y travaille fort pour que il y a vraiment sur le et c'est de discussions avec l'INCa qu'on arrive à couvrir tout le territoire avec des centres de dépistage.
Et vive le dépistage. Donc quoi qu'il en soit pour le cancer du poumon comme pour d'autres d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci vraiment à tous et merci de vos nombreuses questions.